Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Un peu de calme, s'il vous plaît, dans le studio. Beaucoup, c'est très bruyant. Alors certes, on écoutait l'excellente émission de Carl Zero et on se barrait, mais maintenant, j'aimerais un petit peu de sérieux pour notre émission qui est tout de même, rappelons-le, une tranche info. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h58, nous sommes le jeudi 21 février et c'est la boule au ventre que je vous salue, chers auditeurs, car il se passe des choses étranges, à la limite du paranormal, ici, à Europe 1. Des phénomènes mystérieux ont en effet été observés au niveau du parking. Certains témoins évoquent une voiture fantôme sans chauffeur qui, visiblement animée d'un esprit propre, se déplacerait toute seule, bugnant une à une les véhicules qui ont le malheur de se trouver sur sa trajectoire. Si ces faits sont avérés, qui est le propriétaire de la voiture folle? Pour l'instant, la police ne dispose que de maigres indices, notamment un autocollant « Viva Portugal » sur le pare-brise. Une chose est sûre pour les autres usagers du parking, à commencer par Jérôme Lacroix.
Ça suffit.
Jérôme qui en a marre de retrouver chaque jour son Citroën Picasso 2 rutilant avec le pare-choc un peu plus embouti. Et qui annonce des représailles terribles si la voiture folle frappe encore, il l'aspergera de cassoulet bouillant. Ce sera ce qu'il appelle...
la cassoulet war.
Alors, au terme de ce lancement apparemment surréaliste, vous vous dites qu'a fumé Mathieu Noël ce matin. Eh bien, le pire, chers auditeurs, c'est que vous verrez que 80% de cette histoire est vraie. Une voiture se déplace vraiment toute seule à l'insu de son ou de sa propriétaire sur le parking d'Europe 1. À qui appartient-elle? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, quoi qu'énerver, je les salue quand même. Céline Dacosta et Varoc, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Eva, de quelle question votre esprit fécond a-t-il encore accouché aujourd'hui?
Mais vous savez, depuis lundi, Anne Le Gall nous donne plein de bons plans en termes d'application. Mais vous, celle dont vous ne pouvez pas vous passer, la plus utile, celle que vous utilisez tous les jours, c'est quoi cette application en question? Vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Céline Dacosta, plus on approche du week-end et plus le soleil qui est un ami nous gratifie de ses doux rayons.
Oui, c'est vrai, avec encore beaucoup de grisailles le matin, mais le soleil va s'imposer et puis la douceur aussi, hein, parce qu'il va faire jusqu'à 17 degrés à Paris aujourd'hui, 21 à Biarritz.
21 à Biarritz, on va pouvoir sortir la planche de surf.
Oui, voilà, bien sûr.
Si toutefois on savait surfer.
Voilà.
Merci Céline, chers auditeurs, avec ce bon goût qui vous caractérise pour un réveil aussi enjoué qu'informé, vous avez fait le choix qui s'impose, vous écoutez... Debout les copains, 2 heures d'infos rehaussées de prestations humoristiques de haute volée. Donne-moi ton... Ah bah non, pas du tout. Alors là, le jingle est parti. Le jingle est parti avant la dernière vanne. Tant
et
pis.
Bienvenue. Bienvenue à vous.
C'est le carillon. Il est 5h. On passe rapidement à l'info.
Tout à fait.
Le premier journal de ce jeudi 21 février, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Fermeté et solidarité avec la communauté juive. Un bouquet de mesures annoncé hier par Emmanuel Macron au dîner du CRIF dans le contexte d'une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le président. Le rapport d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla accable l'Élysée des défaillances au sommet de l'État. Trop de pouvoir laissé à l'ex-collaborateur qui dort en prison. La sécurité de la présidence a été affectée selon les sénateurs. Et puis un Kylian Mbappé encore en verve hier soir au Parc des Princes et le PSG gagne 5-1 en Ligue 1 contre Montpellier. Ce soir, Rennes va tenter de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa. L'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la République. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir devant les membres du Conseil représentatif des institutions juives de France. Le chef de l'État présent à l'annuel dîner du CRIF a annoncé de nouvelles lignes rouges dans un contexte de forte augmentation des actes antisémites. Jean-Rémy Bodo.
Il serait faux de dire que nous n'avons rien fait.
Emmanuel Macron, visiblement ému, déplore la montée de l'antisémitisme dans le pays.
Trop d'indignation, trop de mots, pas assez de résultats.
Reprenant une revendication du CRIF, le président confirme que la France va adopter une définition de l'antisémitisme qui intègre l'antisionisme.
Il ne s'agit pas de modifier le code pénal, encore moins d'empêcher ceux qui veulent critiquer la politique israélienne de le faire. Il s'agit de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël la haine du juif la plus primaire.
Un travail qui passera notamment par une proposition de loi en mai contre la haine sur Internet.
Nous devons à ce titre nous inspirer de ce que nos voisins allemands ont su faire. Apporter des sanctions judiciaires, pénales et pécuniaires. Appeler la responsabilité des individus comme des plateformes.
Le chef de l'État reconnaît que le travail sera long.
Alors nous ne gagnerons pas ce combat en un jour. Mais je veux ce soir vous dire une chose. Nous ne nous habituerons jamais.
Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1, le président qui annonce aussi le lancement d'un audit des établissements scolaires publics touchés par de nombreuses déscolarisations d'enfants juifs ainsi que la dissolution de groupuscules racistes. Encore hier, des tags antisémites ont été découverts dans le cimetière de Champagne au Mont d'Or, près de Lyon.
Europe 1, il est 5h02.
Il n'y a donc pas eu d'accord hier entre patronat et syndicats sur la réforme de l'assurance chômage. Pas d'entente possible sur la question des contrats courts. Les syndicats veulent que les entreprises qui y ont trop recours soient sanctionnées financièrement. Le patronat refuse Doumalus. C'est le gouvernement qui reprend donc ce difficile dossier.
Un gouvernement visé, Jérôme, au cœur hier par le Sénat.
Avec la publication des conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, les sénateurs ont demandé des poursuites pour faux témoignages. Mais pour ces derniers, les sénateurs, l'affaire révèle de sérieuses défaillances au sommet de l'État. Trop de pouvoir laissé à Alexandre Benalla qui dort désormais en prison. La sécurité de la présidence a été affectée. Trois très proches d'Emmanuel Macron sont ciblés, le secrétaire général Alexis Keller, le directeur de cabinet Patrick Strauda et le chef du groupe de sécurité de la présidence, le général Lionel Lavergne. La justice pourrait là aussi être saisie. L'Élysée parle sans plus de précision pour l'heure de contre-vérité. En tout cas, avec ce rapport accablant comme rarement, le Sénat a tenu à montrer la preuve de son indépendance. Adrien Beck.
Le Sénat sait donner des coups de griffe et l'a montré hier. On n'est pas que des gentils, rigole un sénateur. Alors officiellement, pas question de parler de revanche de ceux qu'Alexandre Benalla avait surnommés les petits marquis. Mais dans les couloirs du palais du Luxembourg, on vante, tout parti confondu, le boulot solide et sérieux de la commission d'enquête. Son co-rapporteur, le socialiste Jean-Pierre Sueur, se garde bien d'attaquer l'exécutif.
On n'est pas en guerre. Je dis simplement, heureusement que le Sénat existe pour présenter en toute indépendance ce rapport.
Clin d'œil appuyé à Emmanuel Macron qui remet souvent sur la table l'idée d'une réforme en profondeur de la Chambre haute. Avec cette commission d'enquête et ce rapport irritant pour l'exécutif, beaucoup de sénateurs espèrent s'être donné un sursis. Si Macron nous supprime, glisse un sénateur, il supprime son principal contre-pouvoir. Imaginez le scandale.
Adrien Beck, l'ouverture ce matin au Vatican d'un sommet historique. 190 représentants de tous les évêques du monde, de la curie des ordres religieux, réunis autour du pape pour parler à huis clos de la pédophilie. 3 jours et l'écoute notamment de la parole de victimes.
Theresa May évoque des progrès avec l'Europe.
Mais toujours pas de solution. La première ministre britannique était de retour à Bruxelles pour tenter de sauver l'accord sur le Brexit, officiellement programmé le 29 mars, donc dans 5 semaines. Les discussions vont se poursuivre aujourd'hui. Air France suspend au moins jusqu'à lundi ses vols vers Caracas. Mesure ponctuelle pour des raisons de sécurité, assure-t-on à la compagnie. Le Venezuela qui est toujours en proie à un bras de fer entre Nicolas Maduro, président élu mais contesté, et son opposant Juan Guaido, reconnu président par intérim par une 50aine de pays, dont la France et les États-Unis. Et puis, eux veulent éponger, c'est le cas de le dire, la mauvaise image parfois collée aux supporters de foot. Ceux de La Calera, équipe du Chili, ils ont, après une rencontre au Brésil, entièrement nettoyé les toilettes du stade brésilien. Photo des urinoirs pimpants sur le hashtag Europe 1.
Au moment de passer à la rubrique sportive, j'aimerais rappeler à ceux qui en douteraient le caractère absolument neutre de notre journal des sports. Jérôme, vous pouvez procéder. À la une du journal des sports, une marche en avant.
Ah oui, du coup, je vais parler du PSG, désolé.
Oui, c'est pour ça que je me suis permis de t'apporter un équilibre, je dirais, dans votre journal.
C'est vrai, c'est plutôt bien vu. Ils sont inarrêtables, c'est vrai, en ce moment. Ils ont balayé hier soir au Parc des Princes des Montpelliérains, pas récompensés de leurs bonnes intentions de jeu. 5-1 en match en retard de Ligue 1, grâce notamment à des buts d'Mbappé, son 20e en championnat cette saison, de l'Argentin Di Maria, un superbe coup franc direct, mais aussi un but du défenseur Leivin Kurzawa, qui a un temps connu l'équipe de France, hein, les Bleus. Il a été beaucoup blessé ces derniers mois et il était titulaire hier soir pour la première fois cette saison en Ligue 1. Un retour par la grande porte qu'il doit, dit-il, à une chose principalement.
J'ai bossé. J'ai bossé sans arrêt, ça a été compliqué et j'ai fait que ça. Bosser. Voilà, j'ai eu la pubalgie, je suis revenu, je pensais que ça allait, c'était fini et je me suis fait opérer de l'hernie discale et je suis reparti de zéro. Donc là, je vais continuer à bosser jusqu'à temps que je continue. Je ne vais pas m'arrêter de bosser, de toute façon je pense que c'est ça la clé.
Des propos recueillis par Julien Froment et les Parisiens encore plus en tête du championnat ce matin. Plus 15 points sur les Dauphins Lillois avec encore un match en retard à rattraper. Également hier, Bordeaux-Guingamp 0-0.
On jouait aussi en Ligue des Champions hier soir.
Et ce renversant scénario à Gelsenkirchen où les Allemands de Schalke 04 ont été finalement battus 3-2 à domicile par des Anglais de Manchester City, réduits à 10 et qui menaient 2-1 2-1 jusqu'à la 85e minute. Ils ont marqué 2 buts en toute fin de partie pour renverser la tendance. Dans l'autre match hier soir, victoire d'un solide Atlético de Madrid avec un très bon Antoine Griezmann qui n'a toutefois pas marqué. 2-0 face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Match retour le 12 mars. Un mot de tennis avec la qualification de Gilles Simon pour les quarts de finale du tournoi de Marseille. Et puis côté dames, exploit sans lendemain pour Kristina Mladenovic, tombeuse avant-hier, on vous l'avait raconté, de la numéro 1 mondiale Osaka. C'est au tournoi de Dubaï. Et bien la Française a perdu hier au 3e tour. 7-5-7-5 face à l'Espagnole Carla Suarez.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
14e victoire en 15 matchs hier en D1 de handball pour les joueurs du PSG. Handball 35-30 face à Toulouse. Des Parisiens toujours invaincus et premiers du classement. 3 points devant les Nantais. Eux aussi victorieux hier soir, 39-31 face à Istres.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et si on veut être parfaitement neutre, hein, parfaitement impartial, en un mot parfaitement sport, il nous faut quand même ajouter...
Allez l'OM, tu l'as mérité. Allez l'OM, l'équipe a joué.
Voilà, ils ont joué, mais ils n'ont pas...
Voilà. Oh, comment ça... Oh, c'est vous.
Normalement, il y a du mieux. C'est mieux.
Europe 1, il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping, et puis changer de vie.
Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Mais pour certains, ça a plutôt bien marché. Chaque matin, Europe 1 donne la parole à un homme ou une femme qui a réussi son changement de vie. Ce matin, Geoffroy, il était chef de projet dans le numérique, il est devenu professeur des écoles.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Et si nous faisions, ma chère Céline, un petit point avec sur la météo
plaisir.
Il va faire doux cet après-midi, mais
oui.
Doux.
Mais oui, la moyenne ira de partout.
À Biarritz,
13 à 21 degrés du nord au sud, 15 degrés à Metz, 17 à Paris, 20 à Bordeaux. Une douceur accompagnée de soleil qui brillera largement cet après-midi après dissipation de brouillard présent surtout sur la moitié nord ce matin et qui vont avoir un petit peu de mal à dissiper d'ailleurs hein, de la Haute-Normandie à l'Alsace avec un ciel qui restera voilé cet après-midi. Attention donc au brouillard ce matin, couvrez-vous parce qu'il fait frais. De 0 degrés à Strasbourg jusqu'à 12 à Biarritz. Biarritz, on attend, vous le disiez, 21 degrés cet après-midi.
Merci Céline. Et Varoc.
Depuis lundi, Anne Le Gall vous donne plein de bons plans d'applications à avoir sur son smartphone. Mais vous, c'est quoi votre bon plan? L'application dont vous ne pouvez pas vous passer et qui est la plus utile? Vous nous avez répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1 comme Gecko qui nous dit, alors Le Monde évidemment pour la presse du matin, la BNF Gallica, vous savez la Bibliothèque Nationale de France qui a cette appli pour s'émerveiller, Allociné, oui, SNCF ou Yuka évidemment dont on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Et pour la photo, Handlight et Provoque, ça s'écrit PROVOKE et enfin Deezer évidemment. Et Thierry lui nous dit je suis pas du tout branché appli, un bon plan, oublier son smartphone. Sauf qu'il nous précise que toute sa maison est domotisée. Alors je suis pas sûre qu'il faille oublier son smartphone dans ces cas-là. Vous continuez avec Twitter sur le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de galéjades plus ou moins fines et aussi de belles rencontres. Comme chaque jour vers 5h10 dans Fallait oser, la rubrique de ceux qui ont osé changer de vie. Ce matin, Geoffroy Williamson, il était chef de projet, il a décidé de se reconvertir il y a un an, juste après la naissance de son enfant. Le voilà, professeur au collège, une profession qu'il a toujours admirée.
Fallait oser.
Ça remonte en fait à très loin. Moi j'étais fasciné hein, moi-même par certains de mes professeurs hein, qui voyaient bien que tous les jours les leçons qu'on avait, les conseils qu'on entendait, etc. Bah, au bout d'un moment ça rentre et ça forge quand même des personnalités. Donc j'ai toujours gardé ça dans un coin de la tête. J'ai eu un petit garçon, j'ai pris 2 mois sabbatiques et c'est toujours le moment crucial. On se remet bien en cause, bien en question. Et donc voilà, j'ai réfléchi avec un coach, hein, une personne... pour déterminer un petit peu le cœur de ce que je voulais faire et on est arrivé à la conclusion que c'était prof. Et depuis ce jour-là, je suis libéré.
Alors, Geoffroy n'est pas titulaire du diplôme officiel d'enseignant, mais il peut exercer dans des collèges hors contrat qui prônent une pédagogie différente.
Oui, puis l'année dernière, il trouve l'établissement idéal, c'est à Asnières. Depuis septembre, il enseigne l'anglais aux élèves de la 6e à la 3e, mais aussi l'histoire à quelques classes. Et il part au travail, le cœur léger.
J'y vais très 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 content, je n'ai pas d'appréhension, je sais que ça va parfois être un peu compliqué, mais en même temps, voilà, c'est mon métier. Je sais aussi qu'il y aura des surprises à chaque minute quasiment. C'est répétitif dans l'emploi du temps, mais c'est jamais répétitif dans le contenu, jamais, jamais, jamais. Des enfants de 6e à la 3e, ils n'ont pas une journée pareille, et ils vous le rendent bien. Et du coup, l'énergie que j'essayais de trouver pour faire des choses qui ne me plaisaient pas forcément et qu'on me demandait de faire, là, elle est absolument naturelle, quoi.
Geoffroy ne s'ennuie pas une seconde dans son nouveau métier. Cette première année dans l'enseignement l'a convaincu de continuer et peut-être même de passer le CAPES, ce fameux diplôme officiel pour l'enseignement dans le second degré.
Alors si vous aussi vous avez changé de métier et que vous voulez nous faire partager votre expérience, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Mais oui, écrivez-nous.
Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, certes il est tôt, mais grâce à notre cocktail d'infos et de bonne humeur, on a la niaque et on n'oublie pas les filles. Qu'a donné Dieu à Ophélie Winter ?
La foi.
Exactement, à suivre. Il n'y a pas que la spiritualité dans la vie, il y a aussi le corps. Un corps dont il convient de prendre soin. Dans notre page santé ce matin, Mélanie Gomez vous détaille la trousse pharmacie idéale. Et non Eva, dedans il n'y a pas votre brosse à dents électrique. On en parle, mais d'abord, car ça faisait longtemps, voici Jane Oman sur Europe 1.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
L'antisémitisme intégrant l'antisionisme, une proposition de loi pour la lutte contre la haine sur Internet dès le mois de mai, ou encore des forces de l'ordre mieux formées pour accueillir les plaintes, quelques-unes des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron au dîner du CRIF, dans un contexte de forte hausse des actes antisémites. Le rapport d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla accable l'Elysée, il pointe des défaillances au sommet de l'État, trop de pouvoir laissé à l'ex-collaborateur qui dort en prison. La sécurité de la présidence a été affectée, selon les sénateurs. Les plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron sont ciblés, dont Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée. L'Elysée dénonce pour sa part des contre-vérités. Enfin, l'ouverture ce matin au Vatican d'un sommet historique. 190 représentants de tous les évêques du monde, de la curie, des ordres religieux, réunis autour du pape pour parler à huis clos de la pédophilie. Trois jours et l'écoute notamment de paroles de victimes.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 21 février. Et croyez-le ou non, Céline, les chevaux courent encore cet après-midi à Vincennes. Ils ne s'arrêtent jamais. Imaginez s'ils pouvaient syndiquer les chevaux. Ça changerait pas mal la donne dans le monde du PMU. Heureusement pour les parieurs, il n'en est rien. Oh là ! Tout doux bijou ! Certainement un cégétiste. Vite, bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 108 Titanium Gar. Il fait partie des trotteurs expérimentés et volant avec réussite dans les pays nordiques. Ses incursions en France se sont également soldées par d'excellentes performances. Déjà 2 victoires, dont l'une obtenue sur le parcours qui nous intéresse. Idéalement placé de par les conditions de course de ce quintet, il effectuera un long déplacement depuis les Pays-Bas avec pour seul objectif la victoire. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 8, Titanium Gar.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et l'heure de la convivialité avec un grand cul a sonné. L'heure où les membres de la joyeuse colocation DLC se retrouvent autour de la table du petit déjeuner pour deviser sur le monde tel qu'il va. Mais ce matin, Eva Rock est seule à table. En attendant, Céline et Gégé, elle répète son discours pour la cérémonie des Césars vendredi soir, serrant dans sa main la bouteille de Tropicana Multifruits en guise de récompense.
Et je remercie mes parents.
Dans la chambre de Céline, Céline et Jérôme règlent quant à eux un problème, disons, d'ordre personnel lié aux performances décevantes de Gégé ces derniers temps. Des performances que Céline qualifie à regret d'inversement proportionnel à celle du PSG. Gégé tente de s'expliquer, mais c'est difficile.
C'est au maximum le truc. Ça met 4 heures à remonter, quoi. Parce que ça remonte quand même petit à petit, mais ça met... Et c'était pareil à François 1er, ça mettait des heures à remonter.
Oui. Bref, voilà, je crois qu'il ne nous regarde pas. Passons plutôt au pressing. Notre revue de presse en
c'est
mode zapping.
Vous êtes vraiment... C'est médio, totalement
idiot. C'est bien que vous le découvriez fin février. Surtout depuis 4 ans qu'on bosse ensemble. À la une de vos quotidiens ce matin, les amis, c'est le visage d'Alexandre Benalla. Au lendemain du rapport du Sénat, rapport accablant sur les dysfonctionnements de l'appareil de l'État. Libération, titre, affaire Benalla, mensonge d'État, mensonge au pluriel. Le Figaro écrit l'Élysée rattrapée par l'affaire Benalla. L'Opinion également en fait sa une et parle d'effet domino. Pour les sourires, c'est l'équipe qui nous les offre ce matin. Le quotidien sportif titre « Les gens heureux » avec des Parisiens qui s'embrassent après leur victoire contre Montpellier 5-1. Mais vous, mes sulfureux Olibrius, qu'avez-vous déniché dans la presse ce matin, Eva ?
Elle a 19 ans, elle s'appelle Shamima Begum et elle fait la une des médias britanniques. Une jeune femme qui a en effet été retrouvée dans un camp de réfugiés en Syrie 4 ans après avoir rejoint Daesh. Elle vient d'apprendre par un courrier du ministère de l'Intérieur anglais qu'elle était déchue de sa citoyenneté britannique. La correspondante de Libération raconte qu'à la lecture de cette lettre, sur le visage de la jeune fille, rien ne transparaît, ni colère, ni peur, ni tristesse. Elle dit « Je ne suis pas si choquée que cela, mais je suis un peu choquée quand même ». La journaliste revient alors sur le parcours de cet ado qui, en 2015, avec 2 amis, prend le chemin de la Syrie. 2 semaines plus tard, elle est mariée à un djihadiste néerlandais. Puis, plus rien, aucune trace d'elle pendant 4 ans. Et c'est la semaine dernière, un journaliste au Times qui la retrouve dans ce camp. Elle était alors enceinte de 9 mois, elle a accouché depuis d'un petit garçon. Elle dit avoir eu 2 autres enfants, morts récemment sans doute de malnutrition. Quant à son mari, elle pense qu'il est emprisonné quelque part, mais elle n'en est pas sûre. Depuis 7 jours, elle enchaîne les interviews pour les médias anglais, interviews dans lesquelles elle demande à pouvoir rentrer au Royaume-Uni avec son fils et elle réclame l'indulgence des autorités. Sauf qu'en parallèle, la jeune femme, dans les mêmes interviews, elle explique avoir encore une certaine sympathie pour l'État islamique et que l'attentat de Manchester en 2017, qui avait fait 22 morts lors d'un concert d'Adriana Grande, était d'une certaine manière justifié. Donc, des déclarations qui expliquent la polémique qui agite le Royaume-Uni cette semaine entre ceux qui sont favorables à son rapatriement et puis ceux qui veulent interdire son retour. Pour le ministre de la Justice, c'est donc non. Elle est déchue de sa citoyenneté. En revanche, il n'a pas tranché pour le statut de son bébé. Shamima pourrait donc devenir apatride. C'est une situation qui est possible au Royaume-Uni quand vous avez des éléments qui laissent penser qu'un autre pays pourrait vous offrir une nationalité. Alors, ce serait le cas dans l'histoire de Shamima puisque sa maman était d'origine et d'origine bangladesh. Donc, elle pourrait recevoir éventuellement un passeport bangladais. Sauf que réponse du Bangladesh, c'est non. Pas question de l'accueillir. Et Libération de rappeler que depuis 2010, le gouvernement britannique a déchu de leur nationalité 150 personnes. Aucune n'était inculpée ou condamnée au moment de la décision en question. Shamima pourrait donc venir grossir cette liste. Elle a 28 jours pour faire appel. La preuve qu'il n'y a pas qu'en France où on se pose la question de comment on va faire pour accueillir ou pas les personnes qui étaient parties en Syrie notamment.
Bien vu.
C'est-à-dire dans Libération.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Céline Dacosta.
Oui, moi, on va partir à Épinal, dans les Vosges, à la rencontre d'une libraire qui se bat contre le géant Amazon. Elle s'appelle Isabelle Collin, cette libraire, et sa librairie s'appelle le Quai des Mots. Elle se trouve juste en face de la gare SNCF d'Épinal. Alors imaginez sa surprise et sa colère quand elle a vu l'installation en novembre dernier en face de chez elle un casier de livraison Amazon, son principal concurrent. Une très grosse boîte jaune. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est quand même très très moche.
J'en ai jamais vu, mais je vous fais confiance.
Il n'y a pas d'image. Je vais vous en trouver une. Une très grosse boîte jaune. Oui, non, mais voilà, bon, qui en plus a été installée sans tenir compte des règles d'urbanisme qui régissent ce quartier de la ville classé monument historique. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ce soit très, très esthétique. Elle ne comprend pas pourquoi on lui a demandé à elle de respecter les règles d'urbanisme quand elle s'est installée et pourquoi Amazon ne le fait pas. Pourquoi il y a deux poids, deux mesures et pourquoi cette boîte horrible est installée sur une façade en bois d'architecte sans aucune autorisation. Alors, Amazon a répondu et dit avoir retiré un dossier auprès de la ville pour se mettre en conformité. Mais surtout, Isabelle Collin porte plainte pour concurrence déloyale et demande la fermeture immédiate de ce casier en attendant le verdict des Bâtiments de France. Elle précise que si elle n'a pas de réponse dans les deux jours, elle menace de saisir le juge des référés. Elle fait de son combat judiciaire une croisade contre ce style de commerce, le e-commerce, au nom des petites librairies qui résistent et apportent un service de qualité de conseil aux lecteurs. Les clients, les riverains et le réseau des libraires indépendants ont apporté leur soutien à Isabelle Collin. Eh bien Isabelle, si vous m'entendez ce matin, sachez que moi aussi, que nous aussi, je pense, autour de cette table, on la soutient. Vive les petites librairies et qui, je l'espère, ne disparaîtront jamais. C'est-à-dire dans Aujourd'hui en France, dans les pages régions. Et je crois d'ailleurs qu'elles ne disparaîtront pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, elles disparaîtront pas.
On en a parlé
après,
hier avec Nicolas Carreau.
Exactement. Alors le problème de la boîte Amazon, c'est que c'est pas simplement pour des livres. Vous pouvez recevoir d'autres livraisons.
Il y a différentes tailles de casiers.
Je pense qu'elle va avoir du mal à faire entendre ça.
Je pense que c'est David contre Goliath là. Ça va être un peu compliqué.
C'est David contre Goliath. Je crois effectivement que c'est le message que nous pouvons donner ce matin. Jérôme Lacroix.
Oui, alors et moi c'est pas tous les jours. Je suis très content d'avoir choisi ce matin le sujet qui occupe la une du petit bleu, du petit bleu
le
d'Agen.
Le cassoulet, le couscous, qu'est-ce qui se passe
Le bleu d'Agen, dont le titre, sincèrement, nous a tous interpellés tour à tour dans la coloc ce matin. Ce titre, le voici, vos gueules, les mouettes. Vos gueules, les mouettes, point d'interrogation. En fait, de mouettes. Ouais, en fait, de mouettes, ce sont plutôt des goélands. Le petit bleu raconte que ces oiseaux sont de retour à Agen avec les beaux jours. Alors, ces cris gracieux, oui, pour certains, Agen
si
se transformerait presque en port de pêche. Mais pour d'autres, c'est une sacrée source de nuisance. Et c'est vrai qu'en entendant ça...
À longueur de journée.
Ouais, alors voilà, quand c'est niché juste au-dessus de votre fenêtre.
Mais comment faire taire les mouettes?
Alors, il se trouve que depuis 2 ans, ce sont les anti-goélands qui ont pris le dessus à Agen. Et c'est ainsi que
comment ça se passe? Il y a une amicale des anti-goélands, ils sont inscrits, font des réunions.
Ouais. Ils sont structurés. Et la ville a pris plusieurs initiatives. La stérilisation des œufs, l'injection d'un produit qui tue l'oisillon dans l'œuf. Oui, mais exactement, pour éviter la prolifération. Alors c'est radical quand même. Et le petit bleu décrire sans ménagement, objectif, qu'ils aillent se faire cuire un œuf ailleurs.
Et ils ont de l'humour en plus.
Voilà, de quoi faire bondir les défenseurs de la cause animale, hein, vous serez d'accord. Une nouvelle campagne.
Moi, ça me donne des idées, on pourrait faire pareil avec les pigeons à Paris.
Pigeons. C'est, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que dans toutes les villes, c'est difficile la cohabitation. Il y a toujours des petits soucis de cohabitation entre les oiseaux et nous. Une nouvelle campagne donc, de stérilisation des œufs va commencer là d'ici mi-mars. Et la mission n'est pas facile, hein, raconte le journal. Il faut faire vite, il faut monter sur le toit, il faut éviter les coups de bec et les tirs de fiente, selon les mots du petit peu. Les tirs de fiente, c'est quand même...
Ah, puis alors, une chambre de goéland.
Anecdote.
On s'était garé quelque part. Non, mais on a retrouvé la voiture bien attaquée. Ouais.
Ah oui,
non,
c'est agaçant,
terrible.
Hein.
La voiture...
Imaginez quand vous roulez en cabriolet. Je dis ça pour ceux de nos auditeurs qui évoluent de cette manière-là. Imaginez, là, la fiente, le tir de fiente, vous êtes directement exposé au tir de fiente.
Bah, limite, c'est bien fait. Non, mais franchement, les gens qui roulent en décapotable sont des nantis.
Ça n'est pas intéressant, ce sujet de conversation. Continuez.
Bon, et puis pour s'occuper de ces œufs, donc de la stérilisation de ces œufs, il faut savoir où chercher. Pas facile à trouver. Alors, chaque agenais qui le souhaite, peut balancer la planque du goéland. Formulaire sur le site de la ville.
Balance ton goéland,
exactement.
C'est un nouveau hashtag.
Appel au service d'hygiène. Le numéro est mentionné dans l'article. Je ne le donne pas. Alors, autre méthode, peut-être un peu plus douce, la mise en place de boîtiers effaroucheurs, c'est le terme. Ils vont être testés ces jours-ci. Ils émettent des cris de rapaces. Alors là, j'ai pas prévu, désolé, de bruitage. C'était pas précisé quel rapace. Alors bon, ils émettent des cris de rapaces.
Comme vous êtes toujours un homme de précision.
Oui, exactement.
Vous ne pouvez pas taper comme moi vautour bidule sur Internet. Oui, il vous fallait le son.
Là, dans la machine, il y a des sons de mouettes et j'ai dit, ce sont des goélands qu'il faudrait. Donc on est allé chercher des sons de goélands. Donc il va y avoir des boîtiers effaroucheurs. Ils émettent des cris de rapaces, histoire de perturber la tranquillité des goélands. Un article assez savoureux, mais qui donne les deux points de vue à lire dans le Petit Bleu d'Agen. C'est pas tous les jours.
C'est pas tous les jours qu'on lit le Petit Bleu d'Agen, mais effectivement, merci. Merci pour cet éclairage local, Jérôme Lacroix. Merci à tous les amis. Le pressing referme ses portes. Céline, un dernier mot. Merci Céline.
Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Émoustille en réveil à l'écoute d'Europe 1. Voyons Jérôme, émoustillez-nous un peu.
Bonjour.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Ma chère Céline Dacosta, je crois que l'heure est venue de faire, comme on me le signale en régie, une grosse météo. Météo donc avec grisaille matinale, comme les jours précédents.
Oui, et cette grisaille, on va la retrouver tous les matins jusqu'à dimanche au moins, et surtout au nord de la Loire, des nuages bas, brumes et brouillards parfois denses, comme à Angers, Laval ou Évreux en ce moment, où la visibilité est vraiment réduite. Soyez prudents au volant donc. Des brouillards, on en a aussi quelques-uns sur la moitié sud, surtout près de la Garonne ou sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Pour les autres, ce sera déjà du soleil dès ce matin, soleil qui va briller de plus en plus au fil des heures et qui reviendra dans l'après-midi sur la moitié nord, même si le ciel va quand même rester voilé de la Normandie au nord de l'Alsace, en passant par l'Île-de-France.
Et ces brouillards, on les doit à la fraîcheur matinale,
oui.
Céline.
L'air chaud de la veille arrive sur les sols froids, un refroidissement qui provoque de la condensation. Et une partie de la vapeur d'eau présente dans l'air provoque donc ces brouillards. Comme on va encore avoir pas mal d'air chaud ces prochains jours, on aura encore du brouillard chaque matin. Plus chaud, c'est vrai, puisqu'on attend 21 degrés à Biarritz cet après-midi, 20 à Bordeaux, 19 à Clermont-Ferrand, 18 à Bourges et Nantes, 17 degrés à Paris, 16 à Lille et 13 pour l'une des plus basses à Caen. Ce matin, c'est encore frais, 0 à 12 degrés d'est en ouest, 0 à Strasbourg, 12 à Biarritz, il en fait 6 à Paris.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le seul vrai ami du petit déjeuner. À suivre, une web-série qui va vous amuser, un polar qui va vous fasciner et les applis participatives qui vont vous permettre de donner votre avis dans le débat public en devenant un citoyen 2.0. C'est le chatoyant programme de jeudi Les Bons Tuyaux, sans oublier notre point santé avec celle qu'en interne on appelle la tornade Gomez. Mélanie Gomez, expert santé d'Europe 1, une journaliste qui va toujours droit au but, comme hier quand elle découvrait que Jérôme Lacroix lui préférait Céline Dacosta.
Apparemment, je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir dans cette rédaction, donc c'est pas grave, je me contenterai de mon mari.
Ce matin, c'est une question qu'on s'est tous posée un jour, les amis, notamment au moment de partir en vacances. Mélanie vous décrit par le menu ce que doit contenir la trousse à pharmacie idéale.
Bienvenue à tous sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 21 février 2019. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin Hélène.
La charge contre l'Élysée dans l'affaire Benalla. Le rapport sénatorial dénonce des dysfonctionnements majeurs. Contre-vérité, répond Benjamin Griveaux. Emmanuel Macron promet du concret face à l'explosion de l'antisémitisme. Lors du dîner du CRIF hier soir, il annonce notamment une proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Et puis coup d'envoi au Vatican de 3 jours de débat sur le sujet très sensible de la pédophilie. Le pape François réunit les représentants de tous les évêques.
Europe 1.
C'est donc un sommet historique qui s'ouvre tout à l'heure au Vatican. 190 représentants de tous les évêques à travers le monde, de la curie, des ordres religieux, seront réunis autour du pape François pour parler à huis clos de pédophilie. Pendant 3 jours, ils vont notamment écouter les témoignages des victimes. Virginie Riva.
Il faut que l'Église regarde ce monstre qu'est la pédophilie en face, sans avoir peur. Ce sont les mots du porte-parole du Vatican. Le ton a décidément bien changé à Rome. L'idée du pape, c'est de mettre la parole des victimes au centre. Avant même son propre discours d'ouverture, 5 témoignages vidéo de victimes seront diffusés. Et chaque soir, au moment de la prière, les évêques écouteront une victime. Pour certains, venus d'Océanie, d'Afrique, ce sera une première. Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, représente l'Église de France à ce soir. Il attend une prise de conscience de chacun, mais il le sait, les discours ne suffiront pas.
J'ai souvent entendu des victimes dire on n'a pas besoin que de mots, on a besoin aussi d'actes. Et donc aussi de regarder dans le gouvernement de notre Église les changements, les progrès qu'il nous faut faire pour que, comme on dit, notre maison Église devienne sûre pour les enfants et les jeunes.
L'Église ne serait donc pas assez sûre aujourd'hui. Les victimes souhaitent d'ailleurs qu'elle prenne des mesures contre les auteurs de ces crimes, que les prêtres soient défroqués et qu'il n'y ait aucune prescription, que les évêques qui les ont couverts soient punis. Mais on ne saura que dimanche matin, avec le discours final du pape, à quoi aboutira concrètement ce sommet.
Virginie Riva.
Emmanuel Macron dénonce une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, une déclaration hier soir lors du dîner annuel du CRIF. Le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures concrètes, notamment la définition de l'antisémitisme élargie à l'antisionisme, mais sans modifier le code pénal. Une proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet dès le mois de mai ou encore la dissolution de groupuscules d'extrême droite. Hier encore, des inscriptions antisémites ont été découvertes dans le cimetière de Champagne au Mont d'Or, près de Lyon. Quant aux gilets jaunes soupçonnés d'avoir proféré des injures envers Alain Finkielkraut, sa garde à vue a été prolongée à Mulhouse. Converti à l'islam, il est décrit comme un petit délinquant proche de la mouvance salafiste, mais pas fiché radicalisé.
Europe 1, il est 5h33.
L'Élysée dénonce des contre-vérités après le rapport accablant sur l'affaire Benalla rendu par la commission d'enquête du Sénat.
Il dénonce en effet des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État, ce rapport, et assure que la sécurité du président a été affectée par les agissements sans contrôle d'Alexandre Benalla. Le président de la commission d'enquête sénatoriale, Philippe Bas, énumère les erreurs élyséennes.
Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services.
Philippe Bas sur Public Sénat.
Constat d'échec sur la réforme de l'assurance chômage.
Et oui, comme on s'y attendait, patronat et syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le sujet qui fâche, le bonus-malus sur les contrats courts. Le gouvernement va maintenant prendre la main et devra notamment trouver les mesures permettant d'économiser plus de 3 milliards sur les 3 années qui viennent. Cécile Bourgeon est sortie de prison. Hier, la Cour de cassation a ordonné la tenue d'un nouveau procès en appel pour la mère de la petite Fiona, dont la condamnation à 20 ans de prison est annulée pour les coups mortels portés à la fillette en 2013. Cécile Bourgeon va donc comparaître libre à ce nouveau procès. C'est le 4e depuis le début de l'affaire. Et puis le pic de grippe a probablement été atteint dans toute la France. Selon l'agence Santé publique France, le virus a entraîné la mort de 2800 personnes, 87% chez les plus de 75 ans. En dehors de la vaccination, l'agence rappelle l'importance des gestes d'hygiène pour éviter d'être contaminé. Ne pas éternuer dans ses mains, mais plutôt dans le creux de son coude. Utiliser des mouchoirs jetables, se laver souvent les mains et porter un masque quand on souffre d'un syndrome grippal.
C'était le journal d'Hélène Zeleny. Et tout de suite, Hélène, affûtée comme vous êtes, vous ne pouvez pas y être indifférente. Voici le journal des sports de Jérôme Lacroix, dont le physique, disons, semi-ferme, pour reprendre les appellations des matelas, nous laisse à penser qu'il a d'autres centres d'intérêt que le sport. Jérôme, vos autres passions en dehors du sport ?
Haricots lingots, couan, travers de porc, saucisses et confit de canard.
Ah oui, ceci explique donc beaucoup cela. Allez, journal des sports quand même, Jérôme.
C'est le cassoulet.
C'est le... Tout à fait, c'est la recette d'un cassoulet réussi, moins d'un sportif réussi. Jérôme, la liste des envieux.
De nombreuses fédérations internationales de sport voudraient voir le nom de leur discipline couché sur cette liste, la liste des disciplines susceptibles de faire leur apparition lors des JO d'été 2024 en France. Le comité d'organisation doit dévoiler aujourd'hui très certainement 4 sports. Une vingtaine de fédérations s'est manifestée, squash, pétanque, billard, échecs, vol en soufflerie ou encore pelote basque. Oui, alors au final, peu d'élus. Hein. Les disciplines heureuses devraient être aujourd'hui l'escalade, le skate, le surf et la breakdance, discipline dynamique susceptible d'attirer un jeune public. Hein. C'est sur de la musique hip-hop, de la danse spectaculaire et tout ça.
De la musique hip-hop.
Hip-hop, bah oui, hip-hop, H-I-P, H-O-P quoi. Ça plaît au patron tout ça, ça plaît au patron de Paris 2024, Tony Estanguet.
C'est formidable de voir aujourd'hui le nombre de sports qui a envie de rejoindre le giron de Paris 2024. Parmi les dizaines de fédérations que l'on reçoit sur le sujet, on aura peu de place, mais ce qui est formidable, c'est qu'on a le choix et qu'on travaille activement aujourd'hui pour donner de la valeur quelque part, ajouter de la valeur à ce programme sportif de Paris 2024.
Des propos recueillis par Corinne Boulou et les annonces d'aujourd'hui pour 2024 sont une présélection, examen du comité international olympique en juin avant une décision fin 2020.
Le foot, Jérôme, est l'immense défi des Rennais.
Les Bretons ambitionnent de rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Pour cela, il faudra marquer ce soir à Séville contre le Bétis en 16e de finale retour. 3 partout à l'aller, coup d'envoi 21h. Hier soir, fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 3-2 de Manchester City en Allemagne chez Schalke 04. Succès de l'Atlético de Madrid à domicile 2-0 sur la Juventus Turin. Retour le 12 mars. Et puis en match en retard de Ligue 1, Bordeaux-Guingamp 0-0. Et le PSG qui accroît son avance en tête. Plus 15 points désormais sur les Dauphins lillois. Ce après une large victoire hier soir, 5-1 à domicile contre Montpellier. Di Maria et Mbappé ont notamment marqué.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Christian Prudhomme, le patron du Tour de France cycliste. Il sera au Danemark aujourd'hui pour officialiser le départ de la Grande Boucle 2021 depuis Copenhague, ville ô combien pro-vélo. Il y aura un contre-la-montre suivi de 2 autres étapes danoises. Le Danemark, 10e pays étranger à accueillir le Tour de France depuis 1903. Démarrer hors de nos frontières, est-ce un problème ? Certainement pas, répond Christian Prudhomme.
Le premier passage du Tour de France à l'étranger, c'est en 1907. Vous voyez, donc peu d'entre nous étaient déjà nés. Encore une fois, pour faire en sorte que les gens s'intéressent à une épreuve, vous avez 3 éléments. Un, les champions, que nous ne maîtrisons pas du tout. Ensuite, il y a la télévision. Et puis ensuite, ce que nous pouvons faire, nous, organisateurs, c'est-à-dire partir régulièrement d'autres pays et faire en sorte que les gens soient amoureux du Tour. Et amoureux du Tour, et donc aussi souvent amoureux de la France.
Et le prochain Tour partira l'été prochain de Belgique et puis de Nice en 2020.
Ah, de Nice, Eva. Vous êtes flattée ?
Oui, je suis flattée.
Vous le prenez comme un hommage personnel ?
Non.
Que la grande boucle démarre chez vous, c'est un beau symbole.
Ouais.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et entre nous, Jérôme, on a tous des rêves inaccomplis. Vous, plutôt que journaliste, vous auriez rêvé d'être quoi ?
J'aurais voulu être...
un grand maître de la confrérie du cassoulet.
Ah oui, mais chacun ses rêves.
Je crois que j'aurais voulu être musicien.
Il est quoi ? Qui ? Lui ?
Jérôme, oui.
Ah, j'avais pu choisir, oui.
Il est 5h39, il n'est jamais trop tard.
Il arrive à m'émouvoir, même derrière une vanne. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à mi-chemin de compléments d'enquête et du plus grand cabaret du monde. À suivre, web-série, polar et appli pratique pour vous faciliter la vie, tel est le programme de jeudi Les Bons Tuyaux. Et puis Jérôme, en partant en vacances, que ne faut-il jamais oublier au moment de constituer sa trousse à pharmacie ?
Sa capote.
Bref. 9 experts santé voudraient se porter au bout de la trousse à pharmacie idéale.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Eh oui, je suis précipité. Mais pourquoi se presser ? On est tellement bien à 5h40. On fait un point sur la météo et c'est encore du soleil qui nous attend aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Il sera bien présent cet après-midi un petit peu partout après dissipation de la grisaille matinale qui, elle, sera surtout présente sur la moitié nord. Il va en rester un petit peu sur le nord, le nord-est cet après-midi. Enfin, plutôt un ciel voilé. Soleil et douceur pour tout le monde donc cet après-midi puisque la moyenne ira de 13 à 21 degrés du nord au sud avec 17 degrés à Paris.
Merci Céline. Eva, Faroc, je vous vois pianoter fiévreusement sur le clavier.
Oui, et nerveusement parce que mon ordinateur plante et ça m'énerve.
C'est la première fois que ça arrive. Mais depuis
lundi, vous savez qu'Anne Le Gall, elle donne plein de bons plans pour les applications, mais vous, celle dont vous ne pouvez pas vous passer, qui est vraiment la plus utile pour vous, sur Twitter, depuis 5h ce matin, vous nous répondez avec le hashtag Europe 1. Philippe nous dit par exemple, moi qui suis 100% breton, j'adore Webcam HD pour visionner en temps réel des spots maritimes. Il adore notamment quand il y a des tempêtes.
Pratique,
c'est vrai que c'est très très beau. Et Corsico nous donne un bon plan TV Showtime qui lui permet de savoir où il en est dans ses séries. Et puis surtout, c'est qu'en inscrivant toutes les séries qu'il voit, l'application calcule son temps passé devant un écran. Et là, il dit, c'est plutôt effrayant. Vous continuez à donner vos bons plans sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
5h42, l'heure de notre page santé avec Mélanie Gomez ce matin. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Ils sont inefficaces, voire dangereux. Plus de 80 médicaments viennent d'être épinglés par la revue Prescrire. Concrètement, Mélanie Gomez, quels sont les traitements qu'il faut bannir de nos armoires à pharmacie ?
Eh bien d'abord, dans la famille des antidouleurs, ce sont parmi les traitements les plus vendus et pourtant, certains produits qu'on a tous dans nos placards seraient à bannir. Prenez par exemple le gel Ketum, c'est un anti-inflammatoire qui n'est plus remboursé mais qu'on peut toujours acheter. Eh bien selon Prescrire, non seulement il n'est pas du tout plus efficace qu'un autre, mais en plus, il entraînerait de nombreux effets secondaires. Il y a eu des cas de brûlure de la peau notamment, et puis selon ces spécialistes, on oublie aussi le Voltaren, cet autre anti-inflammatoire en gel ou en comprimé, car même si c'est rare, il peut provoquer des soucis au niveau cardiovasculaire.
Alors ok, on évite cela, mais du coup en cas de douleur, qu'est-ce qu'on peut avoir dans son armoire à pharmacie ?
Eh bien l'antidouleur de base, c'est le paracétamol, à condition de ne jamais dépasser les 3 grammes par jour. C'est vraiment la molécule qui est la plus intéressante à avoir toujours chez soi. Et puis si vraiment vos douleurs continuent, il est possible d'alterner avec un traitement à base d'ibuprofène, mais attention, de toute façon, ces médicaments sont à utiliser sur de courtes durées, c'est-à-dire 3 à 5 jours maximum. Ensuite, si vos douleurs de dents ou de dos, par exemple, persistent, surtout, le mieux est de consulter un médecin.
Et Mélanie, est-ce qu'il y a d'autres médicaments qu'on peut tous avoir chez soi mais qu'il vaut mieux éviter ?
Alors, il y a au moins une autre famille de médicaments qu'on a tous chez nous et dont on peut se débarrasser. Ce sont les sirops contre la toux. Cette année, celui qui est particulièrement dans le viseur de Prescrire, c'est le Toplexil. Et encore une fois, d'une part, contre la toux, finalement, il serait pas très efficace. Et d'autre part, il pourrait faire courir des risques non négligeables, notamment sur le rythme cardiaque. Le résultat, franchement, si vous voulez arrêter de tousser ou surtout vous adoucir la gorge, évitez les sirops donc. Mais ayez toujours chez vous un peu de lait chaud et du miel.
Merci beaucoup Mélanie Gomez. On se retrouve demain pour un nouveau Point Santé, 5h40.
Europe 1,
il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, un voyage palpitant et dangereux dans ce trou noir situé à mi-chemin du monde du journalisme et de celui de l'humour. À suivre, vous aimez frissonner avec un bon polar, vous poilez avec une web-série déjantée, mais en bon citoyen que vous êtes, vous avez aussi envie de participer au débat public, de faire entendre votre voix sans forcément bouger de chez vous. C'est possible avec les applis de démocratie participative. Tous ces sujets seront traités et avec Maestra, dans Jeudi les bons tuyaux, votre rendez-vous culture et nouvelles technologies. Mais d'abord les amis, un interlude musical rafraîchissant.
Donne-moi ton corps, baby, ton cœur.
Non,
baby.
Non, pas celui-là, pas celui-là. Non, Céline,
c'est bien,
non ? M avec Super Chérie sur Europe 1.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron promet du concret face à l'explosion de l'antisémitisme lors du dîner du CRIF. Il annonce notamment une proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Le rapport d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla accable l'Élysée. Il pointe des défaillances au sommet de l'État. Trop de pouvoir laissé à l'ex-collaborateur qui dort en prison. La sécurité de la présidence a été affectée, selon les sénateurs. Les plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron sont ciblés, dont Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. L'Élysée qui dénonce pour sa part des contre-vérités. Enfin, le foot et les Rennais vont tenter ce soir de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Ils affrontent en Espagne le Betis Séville en 16e retour, 3 partout à l'aller. Hier soir en Ligue 1, le PSG a accru son avance en tête du classement, victoire 5-1 contre Montpellier en match en retard.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce jeudi 21 février, l'heure de passer au pronostic hippique avec ce génie des paddocks, grâce auquel le monde du PMU se rapproche chaque jour un peu plus de Broadway.
Bonjour, debout les copains, ce n'est pas rien. Et la meilleure mise en selle
à Cabourg,
je bourre. Quand il y en a bourre un, il y en a bourre deux. Oh, qu'est-ce que c'est bon!
Bonjour José Covès.
Mais j'ai fait Lecteur Studio. C'est pas la plus chère, mais c'est la meilleure. Voilà, à Vincennes, dans la première course, ils sont 15 trotteurs au départ. Mes 5 priorités. D'abord le 8, Titayom Gar, titulaire d'un super chrono sur ce même tracé des 2850 mètres. C'est le cheval à battre. Il faudra aussi aller chercher le numéro 6, Ridirib, en tête de la course. Au deuxième échelon, le 15, Valokaja Indo, avec le maestro Jean-Michel Bazir à lutter pour la victoire. Bien engagé, le 9, Jérémôme, doit revenir dans la lumière. De même d'ailleurs que le 13, Colonel, les pieds nus, censé faire pour faire la différence. On peut encore choisir le 5, Nobel Abok, si son driver est bien inspiré, ce qui n'est pas souvent le cas, il fera l'arrivée. Le 7, Braco, vient de s'imposer avec un réel talent. Et enfin le 4, Evening Prayer, pour une jolie 5e place. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord le 8, le 6, le 15, le 9 et le 13. Et l'on ajoute le 5, le 7 et le 4.
Une question me turlupine néanmoins, José. Pourquoi...
Ah, turlupine, c'est bien.
Oui, José. Pourquoi le driver de Nobel Amok, le 5, ne fait-il pas partie de vos idoles?
Parce que le Suédois Robert Berg, c'est de lui qu'il s'agit, n'a toujours pas pris ses marques sur le toboggan de Vincennes. En Scandinavie, il ne drive que dans des sprints sur des pistes vélodromes. Mathieu, vous me connaissez. Je ne demande qu'à délivrer un certificat de bonne conduite à ce Robert, mon futur ami.
José, parfois j'ai du mal à vous suivre, mais je vous aime quand même très fort.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
J'ai rien compris avec ce Robert là. Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici jeudi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Anne Le Gall pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et pour la littérature connectée, celui qui, afin d'éviter qu'on puisse jamais le prendre pour un ringard obsédé par les romans du 19e siècle, a décidé depuis quelques jours dans les différentes émissions auxquelles il participe de prouver au monde et surtout aux jeunes qu'il était toujours grave dans le coup. Bonjour Nicolas Carreau, comment allez-vous?
Bien ou quoi?
Oui, Nicolas. Enfin...
Check de l'épaule, accolade sur l'omoplate. Bien ou quoi? Check de l'épaule, accolade sur l'omoplate.
Check de ce que vous voulez, mais ce matin Nicolas, c'est livre audio. Et ce matin, vous avez choisi le dernier Harlan Coben.
Oui, il vient de sortir en format audio, il est tout chaud, édité chez Lizzie. Et je trouve d'ailleurs qu'un polar en format audio, c'est pas mal. Mais là, il faut quand même un très très bon lecteur avec une voix un peu caverneuse et il faut qu'on ait un peu peur.
Et c'est quel roman d'Harlan Coben? Moi, je les ai tous lus.
C'est par accident. C'est l'histoire de
C'est pas le plus mauvais.
Napoléon Dumas. Il est flic, mais du genre qui traîne une vieille blessure personnelle. En l'occurrence, Nap a vécu une sale histoire quand il était au lycée. Son frère jumeau et sa copine ont été assassinés. On n'a jamais su ce qui s'était passé. On les a retrouvés morts sur la voie ferrée et la police a conclu à un double suicide, mais Nap n'y a jamais cru.
Donc il enquête dessus maintenant qu'il est policier.
Pas directement, mais le passé ressurgit d'une autre manière. Encore un crime, on est chez Harlan Coben. Cette fois, c'est Rex, un de ses amis policiers qu'on a retrouvé mort, et sur le lieu du crime, les empreintes d'une femme, le premier amour de Nap. Le crime, on le lit dès les premières pages, une femme, Daisy, s'est associée à un policier, Rex, pour arnaquer des gens. Ils sont embauchés par des femmes en instance de divorce. Daisy drague le mari dans un bar, elle le fait boire, elle lui demande ensuite de la raccompagner chez elle en voiture, mais Rex se tient prêt dans sa voiture de police, il arrête le mari et il le verbalise pour conduite en état d'ivresse. Aux États-Unis, ça peut lui valoir de perdre la garde des enfants. C'est une petite arnaque, mais qui marche très bien, sauf jusqu'à ce jour où tout ne se passe pas comme prévu. Rex met la sirène, mais le type au volant avec Daisy, Dale Miller, reste impassible.
La sirène s'est éteinte, mais la lumière bleue continue à tourner. Dale Miller a regardé Daisy. Elle ne savait quelle attitude adopter. Désarroi, sympathie, un soupir genre « pas de chance ». Tiens, tiens, a observé Miller. On dirait que le passé nous a rattrapés, hein.
La wow, voilà.
On dirait que le passé nous a rattrapés.
La voix caverneuse.
Elle va mourir, elle Daisy.
Mais je dis, mais Eva,
c'est une question.
Mais vous
lirez.
Mais vous salissez.
Vous
écouterez. Laissez à nos auditeurs le plaisir de découvrir cette voix caverneuse. La suite est à écouter, donc par accident, chez Lizzie. Merci Nicolas Carreau.
Mais je vous en prie.
On parle à présent des nouvelles technologies au service du quotidien avec vous, Anne Le Gall. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Et si notre smartphone permettait d'améliorer la démocratie? La question se pose avec le développement de ce qu'on appelle la Civic Tech. Mais c'est quoi la Civic Tech, Anne?
C'est un ensemble de sites internet, d'applications qui utilisent les nouvelles technologies pour repenser le débat politique, la démocratie. Ce terme est apparu en France il y a 10 ans et il revient dans l'actualité à l'occasion de la crise des Gilets jaunes et du Grand Débat. Et donc, au-delà de la plateforme granddébat.fr lancée récemment, on trouve parmi ces civic tech la plateforme make.org, make comme fabriquer en anglais. Cette plateforme citoyenne indépendante des partis politiques recueille toutes sortes d'idées proposées par les Français pour améliorer leur quotidien. Et un algorithme ensuite classe ces idées en fonction des appréciations qu'elles ont reçues. Donc ça donne un top 5 ou un top 10 des meilleures idées pour améliorer, par exemple, la vie des personnes âgées ou améliorer l'accès à la culture. Et puis, autre exemple de Civic Tech, ce sont toutes ces applications utilisées par les élus locaux pour améliorer le dialogue avec les concitoyens. On peut citer, par exemple, NeoCity ou FluiCity. Donc si on habite dans une commune qui utilise ce système, le smartphone devient une sorte de boîte à idées ouverte à tous les habitants. Alors évidemment, ça suppose que les villes proposent ce service. Ça se développe un petit peu partout. NeoCity revendique par exemple 500 000 utilisateurs dans une quarantaine de villes. Ouais. FluiCity a été lancé dans une ville qui s'appelle Vernon dans l'Eure il y a 4 ans. Et cette ville indique qu'il y a 12% de ses habitants qui utilisent cette plateforme aujourd'hui. Donc concrètement, les habitants peuvent proposer des projets, la création d'une piste cyclable, d'un terrain de jeu. Ils peuvent signaler via l'application s'il y a un problème d'éclairage dans telle rue ou un nid de poule à tel endroit pour le signaler aux services municipaux. Ces nouveaux outils posent la question, c'est vrai, de la fracture numérique, parce qu'on rappelle qu'un Français sur 10 ne se connecte jamais à Internet. Mais ces Civic Tech ont l'intérêt, le mérite d'exister, surtout face au récent record d'abstention. C'était 57% d'abstention aux dernières législatives.
Il y avait une commune comme ça où vous envoyez par exemple une photo d'un nid de poule et vous l'envoyez carrément au maire sur Twitter.
C'est génial.
Et le service l'envoie lui-même au service. Et après, service doit refaire la photo pour remettre sur
Twitter.
Voilà
la France que j'appelle de mes voeux, mes agneaux.
Moi, c'est concret.
Voilà, c'est très concret. Et petit bonus, petit bonus, Mathieu Noël, j'ai retrouvé le nom de cette application dont je vous parlais hier. Vous savez, cette application pour se déplacer avec des cartes hors ligne, notamment quand vous êtes à l'étranger. Alors évidemment, si ça marche plus,
on télécharge la carte quand on est en ligne.
Ça s'appelle MapsMe.
Oui, c'est pas grave. C'est ce que je vous ai dit 15 fois hier.
Bah oui, vous ne l'avez pas dit à l'antenne.
Non, on ne l'avait pas dit à l'antenne.
Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on se dit entre nous qui compte. C'est ce qu'on dit, surtout l'auditeur, c'est le principe de la radio. Donc ça s'appelle maps.me.
Et
c'est très bien, ça permet hors ligne de télécharger des cartes. Et Varoc.
Eh bien, on reste sur les écrans, les petits écrans, parce que vous allez pouvoir découvrir une nouvelle web série très maligne sur YouTube, donc sur votre smartphone si vous voulez. Et cette web série, son sujet, c'est YouTube. Abonne-toi, ça s'appelle, raconte en effet le quotidien d'un collectif de YouTubeurs qui cherchent absolument à gagner des abonnés sur leur chaîne, sauf que les quatre amis ne sont franchement pas doués. Rendez-vous avec le responsable de la plateforme qui les héberge.
Ce serait une série sur Yes, sur nous, quoi. Et ça suivra notre parcours sur YouTube, comment on galère, comment on réussit, parfois. Et en fait, les personnages auraient nos propres prénoms, c'est-à-dire qu'en fait, ils seraient inspirés de nous.
Inspirés de vous.
Voilà.
C'est vos prénoms.
Ouais, donc en fait, ce serait comme une série sur YouTube qui parlerait de YouTube. Et on s'est dit que voilà, ça intéresserait vachement de gens.
Vous n'êtes pas assez connu pour ça.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Laurent Lafitte dans le rôle du patron en question, invité de luxe pour un premier épisode qui justement tourne en dérision cette obsession qu'ont les youtubeurs à convaincre les stars des réseaux à faire une apparition dans leurs vidéos. On appelle ça le featuring. Alors sous couvert de fiction et d'humour, le collectif Yes Vous Aime, qui est constitué de comédiens issus du Conservatoire National de Paris et qui était à l'origine de cette web-série, en fait essaye d'analyser toutes les coulisses de cet univers qui reste encore un peu mystérieux pour le grand public. Un projet né dans l'esprit de deux auteurs, Guillaume Crémonez et Bertrand Husclat, qui jouent également dans la web-série. Et contrairement à leurs personnages, alors eux, ils font partie des plumes les plus créatives du web aujourd'hui. Un talent d'écriture qui mérite vraiment d'être mis en avant. Abonne-toi mérite donc que vous vous abonniez à la chaîne Yes Vous Aime, histoire d'être au courant de tous les contenus qui sont produits par ces enfants du web. C'est vraiment très malin. Donc la web-série s'appelle Abonne-toi et le collectif qui la réalise, ça s'appelle Yes Vous Aime.
Merci beaucoup Eva pour ce petit conseil. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Nicolas Caro, pour terminer, votre souhait le plus ardent.
Qu'on soit de vrais Kaira.
Ah oui, c'est pas gagné quand même. Du travail, Nico. Il y a du travail.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Calme.